Bonjour et bienvenue dans l'Info s'éclaire. Des chars et peut-être bientôt des missiles ou des avions de combat, l'Ukraine réclame toujours plus d'armes à ses alliés. Alors question, faut-il craindre un engrenage qui verrait l'Occident entrer directement en guerre contre la Russie? L'Info s'éclaire est intitulé « Ukraine, des chars et bientôt des avions de combat ». Nos invités, général Vincent Desportes, vous avez été directeur de l'école de guerre, vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et je cite votre dernier livre intitulé « Devenez leader », c'est aux éditions Odile Jacob. Bernard Guetta, vous êtes journaliste, député européen du groupe Renew Europe, spécialiste de géopolitique. Vous avez été correspondant à Moscou pour le journal Le Monde et d'ailleurs on peut lire dans Le Monde de mercredi votre tribune intitulée « Il faut cesser de penser à négocier les frontières de l'Ukraine à la place des Ukrainiens ». Enfin, Denis Strelkov, vous êtes journaliste à la rédaction russe de RFI. Merci de participer à cette émission en direct. Donc, une centaine de chars sont promis à l'Ukraine. C'est un pas de plus dans l'engagement des Occidentaux aux côtés de l'Ukraine. Une décision extrêmement dangereuse, estime Moscou. Sujet de Marc de Chalvon.
Combien de chars d'assaut occidentaux vont être livrés à l'Ukraine et dans quel délai ? Après des semaines de négociations intenses, le chancelier allemand Olaf Scholz a finalement donné son feu vert. 14 chars Léopard 2 pris dans les réserves de l'armée allemande seront transférés à l'Ukraine.
Notre but est de fournir rapidement avec nos alliés deux bataillons de chars à l'Ukraine.
L'Allemagne a également autorisé d'autres pays possédant des chars de fabrication allemande à les exporter vers l'Ukraine. C'est le cas de la Pologne et de la Norvège qui se sont engagés à en livrer respectivement 14 et 2. 5 autres pays européens envisagent sérieusement de faire de même et il faut ajouter le Royaume-Uni qui va livrer 14 de ses chars Challenger. Les États-Unis, eux, viennent d'annoncer par la voix de Joe Biden l'envoi de 31 de ses chars Abrams. En tout, plus de 100 chars occidentaux devraient arriver sur le champ de bataille ukrainien. Mais il faudra plusieurs semaines avant qu'ils ne soient déployés, le temps nécessaire pour former les militaires ukrainiens. Avec ces livraisons, assiste-t-on à un tournant de la guerre en Ukraine ? Plus rapide, capable de tirer en mouvement et avec précision, les chars occidentaux sont incontestablement supérieurs aux chars russes dans une guerre qui se résume souvent à une bataille de chars. Y a-t-il un risque d'escalade ? La Russie a immédiatement réagi et parle d'une décision extrêmement dangereuse. Depuis le début de la guerre, Vladimir Poutine menace les Occidentaux de représailles en cas de livraison d'armes sophistiquées à l'Ukraine. Il dénonce aujourd'hui la décision allemande dictée d'après lui par l'ennemi américain.
C'est un fait. Il y a de nombreux soldats américains en Allemagne. Les hommes politiques allemands eux-mêmes reconnaissent que l'Allemagne n'est pas un pays souverain, au sens strict du terme.
Le Kremlin a ajouté que les chars occidentaux allaient finir brûlés en Ukraine.
Et après cette promesse donc de livraison de chars, Volodymyr Zelensky réclame maintenant aux Occidentaux des missiles, mais aussi des avions de chasse. On l'écoute.
La fourniture de missiles longue portée nous semble indispensable. Nous avons besoin de développer notre artillerie. Nous avons également besoin d'avions de chasse. C'est notre rêve et notre salut.
Alors, général Vincent Desportes, des chars aujourd'hui, est-ce que demain, la question se posera de savoir s'il faut donner à l'Ukraine des avions Rafale, qui est l'arme suprême de notre armée, non ? À part l'arme atomique.
Alors, l'arme suprême, non, toutes les armes, les chars sont aussi importants que les Rafales et les uns sans les autres, effectivement, ne sont pas capables de produire de résultats. Et il est clair qu'on est dans un processus d'escalade des deux côtés, ce qui est assez normal, puisque la guerre, quand on la laisse faire, est tirée par sa dynamique propre. Donc on est bien dans ce phénomène-là. Donc moi, plutôt que de poser la question sur des modalités, combien de chars, quel calibre, moi, ma question est, qu'est-ce qu'on veut produire ? Et ce qui me paraît absolument indispensable à produire, c'est la certitude dans la tête de Poutine qu'il ne peut plus gagner cette guerre. Pourquoi est-ce que cette guerre continue ? Pour plusieurs raisons. Mais la première des raisons, c'est que les Russes pensent que la défaite est impensable et que la victoire est possible. Et donc, il faut rajouter des moyens, oui, jusqu'à ce que Poutine décide Cette guerre n'a plus de sens pour moi. J'ai intérêt à sortir de la guerre. Donc je crois que c'est comme ça qu'il faut se poser la question. Il ne faut pas s'occuper des outils, il faut s'occuper de ce qu'on veut produire avec les outils. Peut-être faudra-t-il aller plus loin que les chars. L'important est d'être à la fois ferme, clair sur ce qu'on veut obtenir et responsable dans ce que nous faisons.
Bernard Guetta, est-ce qu'il faut néanmoins... Que l'Ukraine demande des armes toujours plus sophistiquées, elle est évidemment...
Elle est dans son rôle.
Elle est dans son rôle. Mais que nous lui livrions, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas se poser la question de est-ce que cette demande n'est pas excessive et est-ce que je ne me mets pas en situation de... dans un engrenage qui fait qu'à la fin, ça va se terminer avec une guerre face à la Russie.
Écoutez, je veux dire, je rejoins profondément ce que vient de dire le général Desportes. La question, c'est l'objectif. Et l'objectif, je dirais, premièrement... de faire cesser cette guerre le plus rapidement possible. Faire cesser cette guerre le plus rapidement possible, eh bien, c'est faire comprendre aux Russes ceux qui ont initié cette guerre. Il ne faut jamais oublier, ils ont initié cette guerre. C'est eux qui sont entrés en Ukraine. Ce n'est pas les Ukrainiens qui sont entrés en Russie. Il faut faire comprendre aux Russes qu'ils ne peuvent pas gagner, que effectivement les démocraties soutiennent l'Ukraine et que nous leur fournirons tout l'appui militaire nécessaire. Une fois que les Russes l'auront compris, eh bien, premièrement, on aura fait cesser des souffrances absolument épouvantables, des Ukrainiens, mais aussi des Russes. N'oublions pas les malheureux troufions russes envoyés vraiment comme de la chair à canon sur le champ de bataille. Et puis il y a un troisième objectif qui est plus lointain, mais qui est presque aussi, j'allais dire presque plus important. C'est d'éviter une explosion de la Russie. Parce que plus durera cette guerre, plus... le régime s'effondrera un jour dans un chaos absolu, dans une anarchie totale, et nous verrions à ce moment-là la Fédération de Russie plongée, eh bien, dans une réédition de d'une page des plus sombres de l'histoire de la Russie, le temps des troubles, c'est-à-dire la dislocation, tout le monde contre tout le monde.
Ce qu'a dit Henry Kissinger en décembre dernier. Il craint un chaos sur 11 fuseaux horaires.
Mais il a tout à fait raison. D'autant plus raison qu'à ce moment-là, les Turcs comme les Chinois s'intéresseraient beaucoup à l'explosion de la Fédération de Russie et que nous aurions une guerre longue, chaotique, épouvantable aux frontières de l'Union européenne. Donc, faire cesser les combats, amener les Russes à la table de négociation, éviter, si c'est encore possible... un éclatement chaotique de la Fédération aussi. Voilà pourquoi il faut livrer des armes.
Il n'empêche, côté à Moscou, quand on entend toutes ces livraisons de chars, et demain, pourquoi pas, des avions de chasse, eh bien, on met en garde l'Occident. Attention, vous êtes en train d'entrer en guerre directement contre nous. On écoute Dmitri Preskov, c'est le porte-parole du Kremlin.
Il y a eu plusieurs déclarations à répétition de la part de capitales européennes et de Washington que l'envoi de systèmes de défense, incluant les chars, à l'Ukraine ne signifie nullement l'implication de ces pays ou de l'Alliance Atlantique dans les hostilités en Ukraine. Nous sommes fermement en désaccord avec ça. Moscou perçoit tout ça comme une implication directe dans ce conflit et nous voyons que ça grandit.
Denis Strelkov, est-ce qu'en Russie, on a vraiment maintenant l'impression de faire la guerre contre l'OTAN et l'Ukraine n'étant que la marionnette de l'OTAN? Est-ce que c'est cette idée?
C'est une idée depuis quand même presque le début de la guerre. C'est vrai qu'au tout début, si on parle de la question de Vladimir Poutine, il disait plutôt qu'il faudra dénazifier l'Ukraine, qu'il faut la démilitariser. Mais puis on a vu que le discours a changé, qu'effectivement, maintenant, la Russie est en train de combattre tout l'OTAN parce que, en fait, c'est très expliqué, c'est très difficile pour les pouvoirs russes d'expliquer aux Russes pourquoi est-ce qu'on perd la guerre à l'Ukraine, même si quand même d'un point de vue idéologique, la Russie ne peut pas perdre la guerre contre l'Ukraine, elle peut-être perdre la guerre contre l'Occident, ça c'est une autre histoire, mais je me permets de revenir un peu sur les mots qui ont été prononcés par vous, David Guetta,
Bernard Guetta,
c'est le matin, je m'excuse, en effet c'est pas exactement les Russes qui ont commencé la guerre, mais plutôt la Russie de Poutine, donc quand on revient un peu sur le tout début de la guerre,
vous dites ça parce que vous êtes vous-même d'origine russe.
Je dis ça parce qu'on n'a pas eu de soutien quelconque à la guerre au début des événements. Le 24 février, je me souviens très bien qu'on a parlé avec des Russes, tout le monde était choqué par le début de cette guerre-là. C'est pour ça que pour faire cesser la guerre, il faut aussi comprendre pas uniquement aux Russes, mais au régime de Poutine, que c'est lui qui ne peut pas gagner cette guerre. Et pour ça, les différents canaux diplomatiques sont extrêmement importants. C'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a un effort diplomatique de la part de la Russie de faire comprendre à l'Occident, de faire comprendre aux pays d'Asie que c'est pas eux qui sont coupables, mais il faut contredire ce discours-là et ça, c'est extrêmement important.
Général Vincent Desportes, quand même, ces propos de Dmitri Preskov qui dit il y a une implication directe maintenant de l'Occident. Qu'avez-vous pensé de cette fameuse tribune de Pierre Lelouch, hein, qui est un ancien secrétaire d'État, et qui dit il y a un moment où Vladimir Poutine va considérer, comme on vient de le dire, qu'il ne se bat plus contre l'Ukraine, mais contre l'OTAN. Et il va peut-être décider un jour d'aller taper des munitions ces fameux chars, qui seraient localisés en Pologne. Et dès lors, eh bien, c'est l'engrenage. La Pologne convoquera l'article 5 de l'OTAN et on sera forcé d'entrer en guerre physiquement, nous, les Occidentaux, contre la Russie.
Moi, je constate que nous marchons sur une ligne de crête. Et c'est pour ça, et nous sommes au bord du gouffre tous les jours. Et que donc, à la fois, il faut être ferme et responsable. C'est-à-dire que cette guerre, il faut la conduire avec raison. Savoir ce que l'on veut produire, mais savoir aussi ce que l'on ne veut pas produire. Vous l'avez dit, monsieur Guetta, il y a des choses qui ne doivent pas arriver, comme par exemple le scénario yougoslave pour la Russie, l'effondrement de la Russie. Ce qui ne doit pas arriver également, c'est que brutalement, le président Poutine, acculé, dise « Ok, ma sortie, c'est le nucléaire ». C'est bien pour ça que, désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, mais il faut pratiquer du « en même temps ». Le stratège pense le présent et le futur. Et je ne peux pas concevoir le présent si je ne conçois pas le futur. Donc il faut créer les conditions de la paix et se proposer et essayer de comprendre comment Monsieur Poutine, le président Poutine, pardon, peut sortir de cette guerre en ayant perdu et sans déclencher son arsenal nucléaire. Donc là, il y a une réflexion à conduire. Si vous me permettez 2 minutes d'histoire, je reviens facilement à la guerre 14-18 qui est très intéressante. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les Allemands, fin octobre 18, décident d'arrêter la guerre? Parce qu'ils décident, mais ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu. L'armée n'est pas défaite. Ils sont capables de reculer jusqu'à Berlin, comme ils feront en 1945. D'ailleurs, le maréchal Foch veut les faire reculer jusqu'à Berlin. Et pourquoi arrêtent-ils la guerre? Ils arrêtent la guerre d'abord parce qu'ils ont compris qu'ils ne la gagneraient pas. C'est terminé. On peut reculer, on peut se battre. C'est terminé. Notre guerre est terminée. On ne gagnera pas. Mais pourquoi? En janvier 1918, le président Wilson propose un projet de paix qui s'appelle les 14 points du président Wilson. C'est balayé immédiatement par l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne pense qu'elle peut gagner. On est en janvier 18, les conditions ne sont pas réunies. L'Allemagne, au contraire, c'est la paix de Brest-Litovsk qui vient d'être faite. Il n'y a plus de pression du côté de la Russie. Ils ont massé leur armée à Lille et ils lancent leur grande offensive pour la paix. Les Allemands, ils font souvent des grandes offensives pour la paix. Et donc là, ils lancent une grande offensive qui, heureusement, échoue. Et Foch, commandant les Alliés, repousse les Allemands qui repartent. Et là, les Allemands reculent. Et tout d'un coup, en octobre, le chancelier Max de Mad, qui est chancelier allemand, s'est dit « on ne peut plus gagner la guerre ». Et tout d'un coup, il se rappelle qu'il y a un projet de paix qui, finalement, d'accord, est relativement raisonnable. Et donc, il dit « il n'appelle pas les Français, il appelle les Américains ». Il dit « ok, je suis d'accord, on va faire la paix selon vos termes ».
Donc, en vous écoutant, il faut quand même une victoire militaire sur le terrain pour ensuite envisager des négociations, la voie diplomatique.
Il faut que la Russie soit sûre qu'elle ne puisse plus gagner la guerre. Il y a quelque chose à faire produire dans la tête des fous qui sont au Kremlin, ouais, pour dire on ne peut pas gagner. Mais en même temps, il faut qu'ils aient une porte de sortie. Il y a des portes de sortie qui est le nucléaire. Ça, c'est sûr. Donc, il faut que les diplomates, les gens intelligents, les philosophes, les politiques arrivent à avoir un projet qui puisse, dont Vladimir puisse se saisir. Alors, il faut le faire avec les Ukrainiens. On est bien d'accord. Il faut le faire avec les Ukrainiens. Mais il faut quelque chose, si vous voulez, pour qu'ils puissent sortir. Et ça, il faut le penser maintenant. Il faut bien faire de l'en même temps, envoyer les chars et penser la paix.
Et Bernard Guetta, on a quand même l'impression que tous ceux qui disent qu'il n'y a pas qu'une solution militaire, mais il faut aussi garder un dialogue diplomatique, il faut aussi faire de la diplomatie. Il y a peu de pacifistes, je veux dire. Très vite, on est taxé d'esprit munichois dès lors qu'on envisage une paix négociée avec Vladimir Poutine. En tous les cas, on a l'impression qu'à Varsovie, l'heure n'est absolument pas à imaginer une paix négociée avec
Moscou.
Écoutez, je vous assure que je suis tout sauf un belliciste, je suis plutôt un pacifiste. Mais comme le général Desportes, je pense qu'il faut à la Russie éprouver un choc militaire pour comprendre qu'il n'y a pas d'autre issue pour elle, y compris pour ce régime. On verra bien ce qui se passera ensuite. Mais y compris pour ce régime, qu'il n'y a pas d'autre issue qu'une véritable négociation. Parce qu'aujourd'hui, M. Poutine propose une négociation. Mais regardons les termes de cette négociation. C'est « nous avons occupé et annexé toute une partie de votre territoire, c'est à nous maintenant, c'est la Russie, et discutons ». Mais discutons de quoi ? Puisqu'il dit « non seulement j'ai occupé, mais j'ai annexé ». Une partie de votre territoire, et je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, il faut véritablement un choc militaire. Mais maintenant, la grande ouverture diplomatique qu'il faut faire, à mes yeux, et dès maintenant, ce n'est pas de proposer un plan de paix ou mettre la nouvelle frontière, etc., aux Russes. Non, c'est de dire, le jour où vous en serez revenu au droit international, où vous aurez évacué l'Ukraine que vous occupez illégalement. Eh bien, nous vous proposons d'ores et déjà un plan de stabilisation de l'ensemble du continent permettant d'envisager une coopération de tous les pays, y compris la Russie, qui compose ce continent. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir une perspective de paix pour l'après-guerre. Et c'est là-dessus que l'on doit aujourd'hui plancher, que les diplomates doivent aujourd'hui plancher, c'est-à-dire proposer la paix d'après la guerre.
Mais est-ce que vous avez l'impression que...
Vous m'avez bien la paix d'après la guerre.
La radicalisation qu'il y a à Moscou, est-ce que vous envisagez Poutine dire « bah ouais, j'ai perdu, je vais retirer mes chars et je vais négocier une paix ». On a l'impression que... est-ce qu'un pays doté de l'arme nucléaire peut dire « bah j'ai perdu, je me retire ».
Écoutez, moi, je ne vois pas du tout une radicalisation à Moscou. Je vois une débandade absolument invraisemblable. Je vois ce régime se fractionner publiquement, ces gens s'invectiver, ces gens se battre les uns contre les autres. Et je vois un Poutine, mais en plein désarroi, qui dit absolument n'importe quoi. Dans l'extrait que vous nous passiez tout à l'heure, en début d'émission, il dit tout tranquillement, mais oui, mais les hommes politiques allemands eux-mêmes reconnaissent que l'Allemagne n'est pas un pays souverain, mais dominé par les États-Unis. Monsieur le Président, fournissez-nous une déclaration d'un homme politique allemand disant ça. Et il le pense, il ment, je n'en sais rien, mais il délire dans tous les cas.
Denis Strelkov, est-ce que vous n'avez pas c'est friable à Moscou ? Est-ce que dans l'entourage de Vladimir Poutine, on voit bien que les choses tournent mal et qu'il y a un moment, il faudrait peut-être quitter le bord de ce navire qui coule
ou... Je pense que tout le monde qui a pu quitter le bord du navire qui coule l'ont déjà fait. Et donc au début de la guerre, on a bien vu qu'après le 24 février, il y a plusieurs hommes politiques qui ont été très proches de Vladimir Poutine qui ont pu quitter le pays. Donc je parle notamment de Koudrine, donc Koudrine il est toujours là. Donc je parle de la tête de Rosatom, qui est Chubaïski, qui a dû quitter Moscou, qui est maintenant à Istanbul, au moins c'était le cas il y a quelques mois. Donc il y a tout le monde, donc si vous voulez, le cercle de Poutine au début de la guerre, il est un peu enfermé. Donc c'est-à-dire que tout le monde qui s'est engagé pour la guerre va être un peu avec lui jusqu'à la fin. Sauf que ça, c'est la question, est-ce qu'il sera là jusqu'à la fin de la guerre ou la fin du régime poutinien ? Ça, c'est tout à fait une question, parce qu'on voit aussi qu'il y a de plus en plus de places qui est occupée par des gens qui n'étaient pas, partie du système avant le début de ce conflit. Je parle notamment de Monsieur Prigozhin, qui est la tête du
militaire de Wagner. Prigozhin qui est la tête
il essaie de gagner du pouvoir politique, ça c'est clair. Au début, il était quelqu'un qui était plutôt dans l'ombre et il reconnaissait même pas qu'il était en tête de cette entreprise militaire, sauf que maintenant il a bien compris que vu que l'armée elle était un peu impuissante face à ses propres problèmes de la corruption, face à ses propres problèmes de désorganisation, il faut mettre un peu la main beaucoup plus ferme que celle de l'armée. Donc c'est pour ça que ce système qui est absolument illégal, parce que Wagner Wagner est illégal, même il est illégal au terme de droit international, ça c'est sûr, mais est illégal au terme de la droit russe également. On n'a jamais parlé que c'est une entreprise qui a même qui est même ses comptes bancaires. Non, c'est pas du tout le cas. Donc maintenant, son but, c'est un peu de faire légaliser Wagner, d'essayer un peu de faire entrer cette entreprise militaire dans le système du droit russe. Et puis, on peut discuter avec Poutine, avec des élites russes, comment est-ce qu'il peut prendre des postes clés au pouvoir. C'est ça, effectivement.
C'est quand même la mafia. Enfin, ça l'est
et ça,
déjà
pour Poutine, ça sent en quelque sorte, ça sent très mal pour Poutine. Enfin, effectivement, si vous avez... parce que c'est, le système poutinien, c'est un système qui était assez figé depuis des années et des années. Quand vous avez des nouveaux éléments qui rentrent dans le système-là, ça crée des turbulences qui peuvent être très mal vues pour tout le monde.
Ouais. Général Desportes, oui.
Alors, non, ce que je veux dire, c'est qu'on a une grave difficulté. C'est qu'on n'est pas dans une guerre. On est dans une guerre idéologique qui ne s'embarrasse pas du côté des Russes de quelques milliers ou centaines de milliers de morts. Ah. On est dans une guerre... Voilà. Là, ensuite, vous avez dit quelque chose...
Donc, il y a un rapport de force en termes de masse qui est favorable aux Russes, c'est ça que
alors,
vous voulez
dire ? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une guerre idéologique du côté, du côté russe. Et donc, il ne s'embarrasse pas des morts. C'est pour ça qu'on voit les morts y aller. Ce n'est pas un problème de mort pour lui. Ensuite, vous avez dit quelque chose qui est très intéressant. Et on est dans un cas de figure qui ne s'est jamais produit sur Terre. C'est-à-dire qu'on est, on est face à une puissance qui dispose de 6000 têtes nucléaires, qui peut perdre. Comment ça s'est jamais produit ? On ne sait pas. Vous avez peut-être lu dans un journal de ce matin un article qui dit il n'y aura jamais la Troisième Guerre mondiale. Ben je dis, faisons attention, parce qu'on ne sait pas. On est au bord du gouffre. On n'a jamais vécu ça. On n'a jamais vécu ça. Ensuite, ce que dit M. Guetta est parfaitement...
Parce qu'Hitler, il les aurait utilisés, hein, sa bombe
atomique. C'est évident, mais c'est absolument évident. C'est pour ça que... Alors, là... Maintenant, on sait ce que c'est qu'une bombe atomique, ce que ne savait pas Hitler, puisqu'il est mort avant la première explosion du bombe atomique. Mais donc, ça rend sage aussi de savoir ce que c'est. Ouais. Mais néanmoins, c'est un cas de figure qu'on n'a pas connu. Donc, on peut faire des hypothèses, mais on ne sait pas. Ça ne s'est jamais vu. Ensuite, M. Guetta a parfaitement raison. Il faut arriver à proposer un système de paix. Avec une difficulté, c'est que, justement, un des objets de la guerre de Poutine, c'est le rejet du droit occidental, le rejet du droit international. Et là, on est dans une grave difficulté. Alors, moi, je pense qu'il faut effectivement... Il y a trois choses à penser dans le futur. Penser les conditions de la paix, qu'est-ce qui fait ? Deuxièmement, penser un système de sécurité sur le continent européen. Et puis, il faut aussi, et c'est aussi important, et en même temps, penser le système international de demain, parce qu'il est à reconstruire. Et on voit donc que les diplomates et les intellectuels ont un vaste travail devant eux. Et ce problème, le problème du jour est militaire, oui, parce qu'il faut acculer Poutine, mais au-delà de ça, il y a des tas de choses auxquelles il faut penser maintenant et qui sont aujourd'hui impensées.
Et c'est vrai que C'est le triomphe des Américains. C'est eux qui sont à la manœuvre dans cette guerre. C'est l'OTAN qui est à la manœuvre.
Vous savez que les Européens ont mis exactement sur la table la même somme en termes d'aide que les États-Unis.
Pourquoi il n'y a pas cette perception alors ?
Il n'y a pas cette perception pour une raison simple. C'est que les États-Unis, c'est déjà un État fédéral. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Nous n'avons pas les États-Unis d'Europe. Nous avons une Union européenne, mais ce n'est pas encore les États-Unis d'Europe, loin de là. Et puis nous avons 27 capitales. Et donc, il faut additionner toutes les aides qui sont apportées par l'ensemble des Européens à l'Ukraine. Et nous arrivons, grosso modo, à quelques milliards près, exactement à la même somme déboursée par les États-Unis et par l'Union européenne. Mais je voudrais revenir, si vous me le permettez, sur cette question du nucléaire. Les Russes officiels, j'entends les Russes du régime, pas vous, les Russes du régime ont l'habitude de dire, et peut-être de penser, parce qu'ils sont un peu ignorants de l'histoire, qu'une nation nucléaire ne peut pas perdre une guerre. Mais, messieurs, est-ce que les États-Unis n'étaient pas une nation nucléaire quand ils ont perdu le Vietnam ? Et est-ce que l'Union soviétique n'était pas une nation nucléaire quand elle a perdu la guerre d'Afghanistan ? Ben écoutez, il y a deux précédents. Alors, il y a une différence. C'est que M. Poutine est certainement moins rationnel que ne l'était le bureau politique soviétique, qu'il était pourtant peu. Mais si vous faites la comparaison entre Khrouchtchev, le patron de l'Union soviétique au moment de la crise des missiles à Cuba, quand le monde a frôlé une guerre nucléaire, Khrouchtchev était un homme tout à fait intelligent, tout à fait rationnel et certainement pas désireux d'anéantir la planète. Monsieur Poutine, alors évidemment, la question se pose, mais je la nuancerai énormément en disant que, vous savez, Monsieur Poutine, il a quand même deux filles qui vivent en Russie, qu'il doit bien aimer parce qu'il les a immensément dotées. Et tous les gens qui font son entourage ont aussi des familles et eux-mêmes vivent à Moscou. Ils savent très bien que si la Russie demain envoie une bombe nucléaire sur la Pologne ou n'importe lequel des pays de l'Alliance Atlantique, eh bien, il y aura la dissuasion qui va fonctionner. N'oublions jamais ce qu'est la dissuasion nucléaire. Vous me frappez, vous êtes frappé immédiatement. Bon, mais écoutez, même M. Poutine le sait.
Et tout ça est juste, et c'est ce qu'on a appelé la sagesse nucléaire, la sagesse apportée par la puissance de la bombe. Mais en revanche, moi je reviens un peu sur les deux exemples que vous avez donnés, qui à mon avis, excusez-moi, ne me paraissent pas totalement pertinents, parce que dans le cas de l'Afghanistan ou dans le cas du Vietnam, c'était pas le pays lui-même.
C'était expéditionnaire,
c'était pas une menace vitale. Et donc je dis donc...
Mais la Russie, ouais. C'est une guerre expéditionnaire.
Alors elle considère que l'Ukraine c'est chez elle.
Mais l'Ukraine, c'est le régime lui-même qui peut tomber, et tous les gens au pouvoir. Ce qui n'était pas le cas.
C'est le régime lui-même qui peut tomber. Je vous rejoins.
Il y a une différence.
Et d'ailleurs, sur cette
impasse. Enfin, pardonnez-moi quand même. Dans le cas de l'Afghanistan, c'est le régime qui est tombé. L'Union soviétique s'est écroulée.
Mais longtemps après,
il y avait un lien fort.
On s'interrogeait tout à l'heure sur le rôle des Européens dans cette guerre et sur l'affirmation d'ailleurs de la puissance européenne. Qu'en est-il de la France ? La France doit-elle montrer qu'elle est à la pointe pour la Enfin, dans cette guerre, en livrant ses Charles Leclerc. Je vous propose d'écouter Elisabeth Borne, la Première ministre, mercredi au Sénat, qui a posé trois conditions pour l'envoi de Charles Leclerc à l'Ukraine. On écoute.
Pour notre aide militaire, nous voulons respecter trois principes. Le premier, comme l'a indiqué le président de la République, c'est que notre aide ne doit pas provoquer d'escalade. Personne n'y aurait à gagner, et surtout pas l'Ukraine. Le second, c'est que notre aide doit être utile et efficace rapidement. Cela implique notamment que les forces ukrainiennes soient en mesure d'être formées pour utiliser les équipements et qu'elles puissent en assurer le maintien en conditions opérationnelles. Enfin, nous ne devons pas et nous ne voulons pas affaiblir significativement nos propres capacités de défense, en particulier les plus critiques.
Alors, général Vincent Desportes, la France doit-elle livrer des chars Leclerc à l'Ukraine ? Est-ce qu'on n'arriverait pas un peu trop tard, un peu après tous les autres ?
Alors non, parce qu'on est arrivé d'abord avant en livrant des AN-10 RC. Donc on peut pas.
Oui, mais c'était des. Alors, maintenant on commence à connaître, c'est des véhicules blindés, c'est pas des chars.
Ah oui, mais ça a amorcé le mouvement.
Oui, non, mais ça a amorcé le mouvement et ça a suivi. Donc on peut pas nous taxer de suivisme dans cette affaire-là. Certains le feront, mais on ne peut pas le faire. Ensuite, il y a deux questions fondamentales. Est-ce que ce serait vraiment un service à rendre à l'Ukraine que donner les chars Leclerc. Moi, je suis tankiste, c'est mon métier. J'ai commandé la première brigade de chars Leclerc avec 80 chars Leclerc, etc. Et vous dites, non, ce ne serait pas un service. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut pour conduire une attaque de chars, c'est un corps homogène de chars. Parce que les chaînes logistiques de ces chars modernes sont extrêmement lourdes. Et donc, quand on livre des chars, il faut qu'il y en ait 40 ou 80 de la même espèce, si vous voulez. Et même, je pense que les Anglais, ils vont pas savoir que faire avec les chars anglais, parce qu'avec 10 chars ou 2 très chars, qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait pas. Et donc, je crois que ça ne serait pas un service. D'autre part...
On découvre au passage, en matière de temps, que la très nette supériorité des Allemands, avec leur char Léopard, qui est vénéré et qui a été produit en milliers d'exemplaires.
Oui, nous sommes bien meilleurs sur l'aviation.
Oui, alors on est bon.
Chacun
sur l'aviation,
a sa spécialité.
Non, pas du tout. Le char Leclerc est meilleur que le char Léopard.
Mais il y en a très peu.
Il avait un petit défaut, c'est qu'il était plus cher. Parce qu'il était bien meilleur. Et qu'à un moment donné, les pays qui rentraient justement dans l'OTAN, etc., ont préféré s'équiper de chars moins chers. Et le Leclerc a été acheté par des pays qui avaient beaucoup d'argent, comme les Émirats Arabes Unis. Mais de fait, on a peu de chars. Notre chaîne de fabrication est fermée depuis 2008, donc on ne peut plus en faire. Nous, on a 200 chars, dont 50 qui sont en train d'être rénovés complètement. Donc, il en reste à peu près 150. Là-dessus, il y en a la moitié qui ne marche pas. Parce qu'on n'a pas de pièces de rechange. Parce que les budgets militaires s'étant écroulés pendant 25 ans, on a bien acheté des chars, mais on n'a pas de pièces de rechange. Donc, et les calculs sont connus. Si on donne 10 chars ou 20 chars à l'Ukraine, nous, on n'a plus de capacité à entraîner l'armée française sur ces chars pendant 2 ou 3 ans. Donc, la décision...
Et ce serait embêtant, on a besoin de chars pour défendre les frontières françaises.
Je vous réponds, je ne peux pas vous répondre. Qui peut répondre ? Le président Macron. Le président Macron dit, est-ce que je donne cette partie de ma défense à l'Ukraine ? Je fais le pari que c'est ce que je dois faire. Ou bien mon rôle de président est de conserver une partie de ma défense pour la France. C'est vraiment une
décision... On en est là à se dire, il faut quand même des chars pour défendre la frontière
c'est
française.
C'est pas à moi de répondre, mais chacun dit, écoutez, si on laisse aller Poutine s'il gagne, il ira que l'on le connaît. Si on pense ça, ou si on pense que c'est possible, alors il vaut quand même mieux conserver quelques chars. Donc, encore une fois, je ne peux pas répondre. D'accord. Mais c'est une réponse C'est une décision politique et un risque pris qui ne peut être pris qu'au plus haut niveau. Et je pense donc qu'il vaut mieux livrer ce qu'on sait faire. On s'est livré et les Ukrainiens en ont besoin du crotal, de l'artillerie, du César, etc. Ça, on peut le faire, il n'y a pas de difficulté, plutôt que d'aller livrer nos chars. D'ailleurs,
vous n'avez pas répondu d'ailleurs sur les Rafales. S'ils nous demandent, ils nous les demandent d'ailleurs, les avions Rafales.
Mais la prochaine fois, ils demanderont les armes nucléaires, donc on doit s'attendre.
On doit
s'attendre à ça. Ce que je veux dire, moi, je ne veux pas répondre à cette question. Moi, je veux dire quel est le but à obtenir. Le but à obtenir, il faut à un moment donné que Poutine dise « Je ne peux plus gagner, il faut que je trouve une voie de sortie ». Est-ce qu'il faudra des avions? J'en sais rien, on verra plus tard.
Bernard Guetta, si on fait le pari qu'à la fin, c'est l'Ukraine qui va gagner et que Poutine perd.
Faisons-le, je fais ce pari.
Faisons-le. Il faudrait être dans le camp des vainqueurs. Est-ce que la France, avec toute sa politique un peu subtile, hein, qui est de dire il faut quand même ménager une porte de sortie, etc., ça ne sert à rien d'envoyer les Charles Leclerc, on ne sera peut-être pas en première ligne dans l'imaginaire, dans le camp des vainqueurs, je veux dire. Est-ce qu'on prend le risque d'apparaître comme des soutiens un peu tièdes, et du coup de ne pas, on sera pas en première ligne comme les Polonais ou comme les comme ceux qui auront réussi à défaire les Russes.
Écoutez, qui a persuadé les 27 pays de l'Union européenne qu'il fallait accorder le statut de pays candidat à l'Ukraine, la France? Qui a fourni l'un des systèmes d'armement qui, dans les premiers mois de la guerre, a été le plus décisif? Je dis bien l'un des systèmes, mais quand même, les Césars. Alors, vous savez, quand on parle avec les Ukrainiens en tête à tête, quand je le fais comme député, je n'entends pas de critique de la France. J'entends une chose très simple. Vous, les Français, vous avez l'immense mérite à nos yeux de nous fournir les armes que nous demandons, sous-entendu, pas les vieux stocks d'Union soviétique qu'on reçoit et dont on n'a pas grand-chose à faire. Et deuxièmement, de les fournir à la date dite. Si vous ajoutez à cela le soutien politique à l'Ukraine par le président Macron, par la France et par son président sur la question de l'élargissement de l'Union européenne, vous avez une France qui n'est pas du tout mal vue en vérité en Ukraine. Alors dans la population, parmi les journalistes, etc., il y a une incompréhension absolue de ce que dit le président Macron sur la relation avec la Russie. Mais il n'y a aucune incompréhension, bien au contraire, dans la direction ukrainienne, d'accord, sur l'ampleur du réel soutien
donc
de la
France. Parce qu'on passe quand même pour un peu trop, comment dire, pas bienveillant, mais un peu trop mou.
Oui, mais à tort, à mes yeux.
Est-ce que ça ne nous est pas préjudiciable quand, la fin des fins, on sera à la table, on dira « Bon, vous, les Français, vous nous avez à peine soutenus. »
Le général Desportes aime beaucoup invoquer le précédent de la Première Guerre mondiale. Je crois qu'il a totalement raison. Et il a raison sur un point fondamental aussi. La Première Guerre mondiale s'est terminée avec le traité de Versailles, qui humiliait et ruinait la Russie. L'Allemagne, excusez-moi. Résultat,
Seconde Guerre mondiale.
Bon, là, on va vite. C'est une des raisons. Mais une des raisons importantes, véritablement importantes. C'est ça qui a favorisé beaucoup l'essor du parti nazi, d'Hitler, sa victoire aux élections, donc la Deuxième Guerre mondiale. Quand l'Ukraine aura gagné la guerre, l'Ukraine gagnera la guerre, j'en suis totalement convaincu. Il ne faudra pas, et là je reprends les mots du président Macron parce qu'il a tout à fait raison, à ce moment-là, il ne faudra pas humilier la Russie. À ce moment-là, il faudra lui tendre la main, comme nous avons tendu la main, et avons bien raison de le faire, à l'Allemagne après.
45.
Exactement. Grande différence à faire, c'est la fin de la Première Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Denis Strelkov, les Ukrainiens s'apprêtent à recevoir une myriade de tanks, D'ailleurs, on entend des bruits de tank dans ce studio. C'est pour nous mettre en condition. s'apprête à recevoir une myriade de tanks. Alors, le Challenger anglais, le Léopard allemand. Savent-ils les conduire? Et est-ce qu'il n'y a pas le... Ou peut-être un jour le Leclerc français. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, du coup, que si on envoie nos tanks, ça nécessite d'envoyer aussi des techniciens français, anglais, allemands pour utiliser ces tanks en Ukraine.
Technicien, comme c'est négociable, mais je vois mal, même si on voit bien qu'il y a des instructeurs qui sont déjà sur place, des instructeurs d'autres des Européens, y compris américains, mais on les voit pas sur le front. Il y a bien évidemment des volontaires qui sont présents de l'armée, ça c'est aussi le fait, mais il n'est pas question pour l'instant d'envoyer des personnels de l'armée pour entretenir ce char. Mais ce qui est important, c'est que quand même, oui, effectivement, pour conduire un char, il faut bien évidemment l'apprendre, selon différentes formations, je parle sous votre contrôle. Ça prend quelques mois parfois d'apprendre à conduire un char. Tous les chars ne sont pas exactement pareils, mais il y a bien évidemment déjà des soldats ukrainiens qui ont passé la formation en Europe. Ça, ce sont des faits.
En Pologne,
en Grande-Bretagne également. Et on a des doutes aussi que peut-être ils ont été entraînés également à conduire des chars. On a aussi des doutes qu'il y a déjà des pilotes ukrainiens qui ont été appris à piloter des avions de chasse américaines. Donc tout ça, ce sont bien évidemment des rumeurs. On a des différentes informations. Donc, on n'a pas d'informations officielles parce que ni
ils
l'Europe...
Ils s'apprêtent à recevoir des F-16 américains, les Ukrainiens, et ils commencent déjà à apprendre à les piloter.
Bah, déjà, ce sont déjà, donc, ce qui est évident, ce que, selon nos sources, donc ça, c'est sur les tables de négociation, où il y a effectivement déjà de commencer l'entraînement des pilotes, mais tout ça, ce sont, si vous voulez, un peu des dialogues qui ne sont pas publics. Donc, on va pas...
C'est vrai que jusqu'à présent, dans cette guerre, les avions de chasse sont... ou était étrangement absent, Général Desportes. Oui. Pourquoi ? Parce qu'alors, on a eu l'impression qu'avec un HIMARS, c'est enfantin d'abattre un avion de chasse.
Non, mais c'est simple. Actuellement, il n'y a pas un avion qui vole dans le ciel ukrainien, ouais. Parce que des deux côtés, la densité des armes antiaériennes fait que les avions ne volent pas. Et dès qu'ils volent, ils sont... Et
donc, quand même une sacrée faiblesse pour les avions de chasse. Si dès qu'ils volent, ils sont abattus comme des pigeons.
C'est un débat dans lequel je ne vais pas rentrer maintenant. Mais on voit bien... Non, mais cette guerre-là, elle nous apprend beaucoup de choses. C'est vrai que ça fait 50 ans qu'on fait la guerre sans qu'il y ait une arme antiaérienne au sol et qu'on est tranquille, qu'on bombarde les Ukrainiens, les Américains bombardent, etc. Il n'y a pas de problème. Et on est rentré dans un autre monde. Et on est en train, dans les états-majors, de tirer toutes les leçons, tous les enseignements de cette affaire-là.
Même si, alors, depuis le début de cette émission, on a beaucoup parlé de la guerre de 14-18, et ben, il y a une autre chose qui est très similaire, ce sont les tranchées et ces deux armées qui se font face. Je vous propose justement de regarder ce reportage au plus près des tranchées. On est côté ukrainien avec Benoît Mousset.
Nous sommes dans la région de Donetsk, tout près de la ligne de front. Elle n'a pas bougé depuis des semaines.
Il y a une forêt à 500 mètres d'ici. Les positions russes sont là, à cet endroit exact.
Avant la guerre, Volodymyr travaillait en Allemagne. Aujourd'hui, il est tireur d'élite dans cette unité. Il maîtrise tous les types d'armement. Les stocks de munitions sont réduits. Il faut viser juste.
Contre nous, les Ruskov disposent de mitrailleuses lourdes et de fusils anti-chars, mais ils visent mal. Ils ont également des lance-grenades. Nous, on riposte comme on peut. Nos positions sont fortifiées, on peut tenir bon et nous le ferons.
Malgré un nombre supérieur en armes et en hommes, les Russes n'ont encore jamais réussi à atteindre la ligne qu'ils défendent.
Dès qu'on tire, ils se tiennent tranquilles après. Tous les jours, des groupes de sabotage s'approchent de notre tranchée. On a l'habitude, on les attend et on les attaque.
Restez bien à couvert surtout. Baissez-vous.
Ces hommes luttent contre l'ennemi depuis presque un an. Leur morale semble bon, mais combien de temps vont-ils encore pouvoir tenir sans être renforcés? Pour changer le cours de la guerre, ils attendent des chars. Des livraisons qu'ils espèrent le plus rapidement possible.
Alors, Général Vincent Desportes, est-ce que oui, ce qui se passe, ça rappelle tactiquement la Première Guerre mondiale avec ses tranchées. Et alors, mes souvenirs de mes cours d'histoire, mais ce qui a changé le cours de la guerre, c'est l'arrivée des chars, justement, des chars français à partir de 1917, non ?
Vous avez raison, c'est les chars qui ont attaqué au nord de Villers-Cotterêts. Au début, les chars n'ont pas su faire. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont retrouvés dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'il y avait des tranchées devant eux, et ils n'arrivaient pas à avancer. Ce qui se passera avec des chars, même s'ils sont léopards. Ouais. Et donc, pourquoi ils sont passés? Parce qu'ils ont attaqué au nord de Villers-Cotterêts, où les Allemands n'étaient pas installés, et donc ils ont réussi à percer. Et donc, ce qui veut dire aussi, ce n'est pas les chars qui vont passer au-dessus des tranchées. Parce que si vous ne passez pas au-dessus des fossés anti-chars, vous ne passez pas au-dessus des mines anti-chars. Et donc, avant que les chars soient efficaces, il faut du génie, il y a quand même un travail pour préparer cette percée-là. Et ce travail-là, il doit être un travail de toutes les armées, de tous les moyens, etc. C'est pour ça que l'Europe est utile pour donner tous ces... Vous savez, une armée, on parle d'interarmes chez nous, c'est toutes les armes à la fois qui coopèrent à un succès, à la percée des chars à un moment donné, mais il faut que ça ait été préparé, bien sûr. Et donc, effectivement, il faut que l'Europe donne. Alors, pour la question de tout à l'heure qui est intéressante, c'est pourquoi l'Europe n'existe pas, pourquoi on dit l'Amérique. Kissinger a répondu il y a 30 ans, il a dit... L'Europe, quel numéro de téléphone? Et c'est bien le problème. Et donc, vous avez parfaitement raison. Dans cette paix qu'il va falloir construire, il faut que l'Europe existe. Parce que les Pax Americana qu'on a connus, il y en a une bonne. Les deux autres, à mon avis, ils ont été quand même
bien. La bonne, c'est celle de 45 dont on a parlé?
Oui, parce qu'on est passé des logiques de puissance aux logiques de responsabilité collective, de sécurité collective, de multilatéralisme. Ça, c'était une bonne paix. La paix de 19, qui n'était pas du tout la paix que voulaient les Français, pas du tout celle de Foch et de Camusot. C'était une paix américaine. Elle a conduit à la guerre, évidemment, c'est pas tout, mais elle a conduit...
Et la paix yougoslave, une catastrophe.
La paix yougoslave...
Celle négociée par les Américains, une catastrophe. Voyons la Bosnie-Herzégovine aujourd'hui.
Et la paix de 91 aussi, la paix de 91, 30 ans après, elle reconduit à la guerre. Donc on voit bien que nous avons, à nous concevoir comme un acteur géopolitique ayant nos intérêts, notre perception du monde, et à exister. C'est pour ça que la division de l'Europe, qui a été créée par celle... L'Europe n'a jamais été autant divisée entre les pays du front, les pays de l'arrière, etc.
Aujourd'hui.
Ah, je suis pas du tout d'accord avec vous.
Vu du Parlement, c'est pas du tout.
Alors, je vais quand même continuer. On a les pays du front qui sont des jusqu'au boutistes, la France qui dit on va faire autre chose, etc. Et donc, je crois qu'il est important, bon, qu'on soit d'accord ou pas, que l'Europe existe à la fin pour arriver à s'imposer dans la paix qui est à construire.
Bah, Bernard Guetta, je vais vous poser justement la question que soulève le général Vincent Desportes. On a l'impression d'une Allemagne très suiviste par rapport aux États-Unis. D'ailleurs, pour envoyer ses chars Léopard 2, elle a demandé le feu vert des Américains. Et on a l'impression d'une Pologne qui s'est radicalisée dans une position atlantiste et presque un peu très anti-russe, et pas du tout sur la ligne d'Emmanuel Macron. Et donc d'une Europe qui a gagné en influence même au sein de l'Europe. On a l'impression que cette guerre n'a pas fait beaucoup de bien au sentiment européen et a divisé les Européens plus qu'elle ne les a unis.
Écoutez, j'ai une perception complètement différente de la vôtre. Bon, d'abord, les Allemands n'ont pas demandé l'autorisation aux Américains de livrer des chars à l'Ukraine. Ils ont dit aux Américains, si vous ne livrez pas des chars aux Ukrainiens, nous ne le ferons pas non plus. C'est-à-dire que ce sont les Allemands qui ont amené les Américains à livrer des chars. C'est exactement l'inverse. Et pourquoi est-ce que l'Allemagne avait cette position? Parce qu'elle ne voulait pas que l'Amérique puisse insensiblement se désolidariser du théâtre européen, alors que nous n'avons pas encore, nous Européens, de défense commune, et que pour seule défense, nous avons l'armée française, maintenant que les Britanniques sont partis. Il n'y a pas d'autre armée réelle aujourd'hui dans l'Union européenne que l'armée française. C'est évidemment insuffisant. Nos soldats ne peuvent pas défendre l'ensemble de l'Union européenne seule à soi. Et il est vital que les Américains restent solidaires des pays de l'Union européenne tant que nous n'aurons pas, nous, une défense commune. C'est le premier point. Le deuxième point, mais écoutez, évidemment qu'il y a des différences entre les Européens et les Américains, entre les Américains et les Américains, etc., etc. Mais permettez-moi de vous rappeler que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas toujours été la lune de miel entre Roosevelt, Churchill, De Gaulle et Staline. C'est même le moins qu'on puisse dire. Alors évidemment qu'il y a des différences, mais sur le fond, citez-moi un seul pays de l'Union européenne, il y en a un, c'est la Hongrie. Mais enfin, c'est la petite Hongrie, c'est un cas très très particulier. Mais à part la Hongrie, citez-moi un pays de l'Alliance Atlantique, de l'Union européenne et les États-Unis, qui ne soit pas d'accord sur l'idée qu'il ne faut pas que la Russie gagne en Ukraine. Nous sommes tous d'accord. Après, ben oui, évidemment, il y a des nuances.
Alors, Denis Strelkov, un mot maintenant sur la situation militaire dont on parlait tout à l'heure. Sur le terrain, il se dit que les Russes préparent une grande offensive. Là, on va bientôt célébrer, enfin commémorer les 1 an du déclenchement de la guerre en Ukraine. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on est au contraire dans un conflit gelé où chacun s'enterre et on joue le pourrissement? Qu'est-ce qui se dit
Selon la publication de Bloomberg qui est sortie ce matin, effectivement, la Russie prépare encore une nouvelle offensive. C'est très difficile de dire quand est-ce qu'il aura lieu et sur quel front, parce que, bien évidemment, on pense de Donbass, car c'est la région qui a l'air d'être la plus importante pour la Russie. On a vu ici qu'il y a la frontière biélorusse sur laquelle il y a plusieurs soldats. Donc, pour l'instant, on dit qu'il y a à peu près entre 10 et 12 000 soldats qui sont russes, qui sont en Biélorussie, ce qui est loin d'être suffisant pour lancer une grande offensive de ce front-là. Parle ici de front de Zaporijjia. Là, il y a eu quelques accélérations des batailles récemment, mais pour l'instant, tout ça nous montre qu'il y a quelques avancées par-ci, par-là. Donc, il y a quelques petites victoires, notamment à Soledar de la part des Russes, mais rien ne nous montre que la Russie est effectivement prête à lancer une grande offensive. Par contre, quand on parle de la situation politique en Russie, c'est ça qui est important de comprendre, qu'on a un peu dans une situation qui est la machine de guerre, la machine économique, la machine politique, y compris, elle est lancée. Le régime de Poutine, maintenant, il ne peut pas exister sans guerre. Donc, si vous voulez, ce discours militariste qui était très mal perçu au début de la guerre par les Russes, donc je me souviens des sondages absolument faramineux au début qu'il y a qu'il y a un grand pourcentage de Russes qui ne tenaient pas la guerre, mais maintenant, évidemment, donc, vu que ça fait 1 an que la guerre dure, les Russes ont plutôt apprendre à vivre avec cette guerre, et Poutine, au niveau global, et puis donc des hommes politiques au niveau local, ont appris un peu à utiliser ça pour eux. Donc tout ça nous montre qu'effectivement, la grande offensive de la Russie, peut-être pas pour demain, mais la Russie ne peut pas exister tant que cette guerre-là ne soit pas menée jusqu'au terme.
Une Russie, en tous les cas, qui s'est totalement isolée et coupée du reste des Occidentaux, puisque pour la première fois, la Russie n'a pas été invitée aux cérémonies de commémoration de la libération d'Auschwitz en Pologne. La Russie, évidemment, a très mal pris le fait de ne pas y être associée. Écoutez cette correspondance de Luc Lacroix à Moscou.
C'est le musée d'Auschwitz en Pologne qui organise ces commémorations et il a été très clair, il ne pouvait tout simplement pas inviter les représentants du pays qui mènent en ce moment une agression contre une Ukraine libre et indépendante. Alors du côté russe, on dénonce cela bien évidemment et on en profite pour prétendre que les Européens voudraient réécrire l'histoire et qu'ils soutiendraient en Ukraine de soi-disant nazis. Alors ça, c'est le narratif habituel russe. Ce qui est vrai, ce qui est une vérité historique, c'est que ce sont bien des soldats de l'armée rouge qui ont libéré le camp d'Auschwitz-Birkenau il y a exactement 78 ans. Le musée d'Auschwitz dit d'ailleurs qu'il espère qu'un jour les représentants russes pourront revenir à ces commémorations, mais il dit qu'il faudra avant cela que la Russie fasse une très profonde introspection.
Bernard Guetta, vous qui avez été correspondant à Moscou, voilà, les Russes ne sont pas invités à la aux commémorations de la libération d'Auschwitz qu'ils ont libérée.
Je dirais que c'est une conséquence navrante, absolument navrante à mes yeux, parce que la Russie est un pays que j'aime beaucoup, pas M. Poutine, la Russie. Ben, tout ça est une conséquence navrante de l'agression de M. Poutine contre l'Ukraine. Mais je comprends.
Vous étiez correspondant à Moscou. Vous avez senti d'ailleurs les germes de cette dérive qui fait qu'on en est là aujourd'hui?
Ah, écoutez, ce que j'ai senti et vivement dénoncé, j'en ai même démissionné du Monde à cause de cela à l'époque, c'est l'erreur historique, mais colossale, que les Occidentaux ont faite en ne soutenant pas, en refusant de soutenir la tentative de Gorbatchev de sortie ordonnée du communisme. Gorbatchev nous proposait la main tendue, il se retirait d'Europe centrale, etc. Et il disait au sommet du G7 à Londres, venez m'aider financièrement, je n'ai plus un sou à tenir ce pays. Autrement, il leur avait dit d'ailleurs, autrement, l'an prochain, je ne serai plus là. Autrement, l'an prochain, je... Eh bien, effectivement, l'année suivante, il n'a plus été là. Ça a été Yeltsin. Yeltsin avec déjà, d'ailleurs, un jeune monsieur Poutine dans ses poches, qui a organisé le hold-up le plus invraisemblable de l'histoire sur la propriété soviétique, sur la propriété collective, qui a dégoûté une grande partie des Russes de l'économie de marché, de la démocratie. Ah ben, si c'est ça la démocratie, si c'est ça l'économie de marché...
Poutine.
Exactement. Autant avoir Poutine. Et véritablement, il y a eu une erreur historique, mais gigantesque, à laquelle échappaient deux personnes à l'époque, François Mitterrand et Margaret Thatcher, qui les deux disaient non, il faut soutenir Gorbatchev. Mais les autres n'ont pas voulu. Et le résultat, très indirect naturellement, mais le résultat, il est là.
Ben, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette guerre en Ukraine avec toute cette... lecture historique qui a ô combien enrichi cette émission. Je rappelle que l'Info C'est Clair est disponible en podcast gratuitement sur toutes les plateformes. Vous restez sur France Info et nous on se retrouve lundi prochain pour un nouvel Info C'est Clair. Bon week-end, à lundi.